VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par les violences au Burundi. Un autre officier militaire de haut rang, le major Didier Mouimpondou, tué mardi soir dans un bistrot du centre de Bujumbura, quelques heures après la mort du lieutenant-colonel Darius Ikoura Kouré, assassiné au quartier général de l'armée. Les autorités militaires confirment le décès du major sans donner d'autres précisions. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Le major Didier Mouimundo a été tué mardi soir alors qu'il répondait à un appel d'une personne en sortant du cabaret Hibiscus sur l'avenue de la Grèce au centre-ville de Bujumbura. Des témoins indiquent qu'un piège lui a été tendu sans connaître exactement les mobiles du crime. Officier d'origine ethnique Tutsi, il est mort quelques heures après l'assassinat du lieutenant-colonel Darius Ikoura Kouré de composante sociale Hutu, abattu par un homme en tenue militaire dans les enceintes de l'état-major général de l'armée burundaise. Ce dernier a été cité dans des enlèvements et des tueries des jeunes qui ont manifesté contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza en avril dernier. Mais plusieurs personnes continuent à se poser des questions sur la mort de ces deux officiers, surtout que le premier s'est déroulé près d'un tableau d'affichage de l'état-major de l'armée au moment de la pause de midi. Les habitants de la capitale ont peur de la recrudescence des violences de Bujumbura, surtout qu'une accalmie relative était observée dans la capitale économique et politique du Burundi ces derniers temps. Depuis l'élection contestée du président Pierre Nkurunziza en juillet de l'année dernière, les Nations Unies parlent de plus de 450 personnes tuées au Burundi, tandis que la ProDH, Association pour la protection des droits des prisonniers, parle de plus de 1100 personnes tuées depuis janvier 2015 jusqu'en février dernier. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Tchad, Amnesty International appelle les autorités tchadiennes à libérer immédiatement et sans condition deux activistes des droits humains arrêtés cette semaine alors qu'ils préparaient une manifestation pacifique. Les précisions de Michel Joseph.
Mahamat Nour Ibedou, porte-parole de Ça suffit, une plateforme d'organisation de la société civile, et Nadjo Kaina Palmer, coordinateur du mouvement IINA, on est fatigué, en arabe tchadien, ont été arrêtés dans les locaux de la police judiciaire de N'Djamena. Ils sont accusés de troubles à l'ordre public et de résistance à l'action des autorités. Selon Amnesty International, les deux activistes avaient été convoqués par le procureur de la République en rapport avec l'organisation de deux marches pacifiques prévues les 22 et 29 mars contre la candidature du président Idriss Déby Itno qui briguera son cinquième mandat le 10 avril. Le 19 mars, le ministre tchadien de l'Intérieur, Ahmad Mahamat Bachir, avait annoncé l'interdiction de toute manifestation sortant du cadre électoral. Mahamat Nour Ibedou et Nadjo Kaina Palmer n'ont été arrêtés que pour avoir exercé leur droit légitime à la liberté d'expression, d'association et de réunion. Ils doivent être libérés immédiatement et sans condition, a déclaré Samira Daoud, directrice adjointe pour l'Afrique de l'Ouest et centrale à Amnesty International.
Djibouti, la coalition de l'opposition à Djibouti, USN, Union pour le Salut National, met en garde contre les risques d'une révolte populaire à la veille de l'élection présidentielle dans laquelle le président Ismaël Omar Guelleh est candidat pour un quatrième mandat. Le chef de l'État fait face à 5 adversaires. Afrique du Nord maintenant, en Libye, des experts avertissent que le rejet par les deux autorités rivales d'un troisième gouvernement soutenu par l'ONU aggrave une situation déjà précaire. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par les violences entre factions armées, une instabilité dont profite le groupe État islamique pour étendre son influence. Les djihadistes se sont installés dans la ville côtière de Sirte pour y former des combattants. Les pays voisins du Maghreb, comme la Tunisie et l'Algérie, redoutent d'être déstabilisés à leur tour. Le chaos en Libye profite aussi aux trafiquants d'êtres humains et des milliers de migrants tentent de rejoindre l'Europe depuis les côtes libyennes.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les attentats de Bruxelles maintenant et l'enquête en cours. Les médias se rétractent après avoir annoncé par erreur l'arrestation de Najim Lachraoui, le troisième assaillant repéré à l'aéroport de Zaventem pendant les attaques. La police belge a identifié les auteurs présumés des attaques coordonnées à l'aéroport de Zaventem et le métro de Bruxelles qui ont fait officiellement 31 morts et 270 blessés. Il s'agit de deux frères résidant à Bruxelles, Khalid Ibrahim El Bakraoui, connu des services de police pour grand banditisme, mais non pour des faits de terrorisme. Le troisième assaillant repéré à l'aéroport, Najim Lachaoui, est donc toujours en fuite. Il était déjà recherché pour son rôle de complice présumé dans les attentats du 13 novembre en France. Les attaques ont été revendiquées par le groupe djihadiste État islamique, 4 jours après l'arrestation d'un des auteurs présumés des attentats de Paris, Salah Abdeslam. La Belgique est donc toujours sous le coup du choc. Un deuil national de 3 jours est en cours. Retour sur les événements tragiques de Bruxelles avec Laurent Montet, expert en criminologie, au micro de John Lyndon.
Les attaques de Bruxelles s'inscrivent dans une stratégie désormais continue organisée par le Front islamique depuis au moins 5 à 7 ans et s'installe désormais en Europe, dans la partie occidentale, après le 13 novembre à Paris. Désormais, nous aurons donc le 22 mars avec une stratégie très claire qui est de répondre avec réactivité aux arrestations, aux perquisitions contre les terroristes ou présumés terroristes.
Est-ce qu'il y a un rapport entre les attaques de Paris, celle qu'on vient de vivre à Bruxelles?
Oui, il existe une connexion évidente, liée donc d'abord au fait que le principal suspect arrêté il y a 48 heures des attentats de Paris, qui était en cavale, vient d'être quelque part honoré par des attentats mettant en évidence qu'on donne des représailles à l'arrestation de cet homme. Et puis, vous avez exactement la même signature comportementale, des attaques coordonnées contre des places symboliques, dans des lieux et des états symboliques, avec le souci, j'insiste bien, de donner de la réactivité à l'arrestation d'Abdel Salam.
Laurent Montet, expert en criminologie, joint à Paris par John Lyndon. Une réaction notable en Afrique aux attentats de Bruxelles, celle du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, dont le pays a été plusieurs fois victime d'attaques de ce genre. On écoute un extrait de ses propos hier, recueilli par notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré. Le président Ibrahim Boubacar Keïta.
C'est-à-dire que le monde est agressé. Les démocraties sont agressées. Et plus tôt nous le comprendrons pour mutualiser et unir nos forces, mieux ce sera pour chacun de nous. Nous sommes tous aujourd'hui en danger quelque part, en danger d'éléments, d'individus, j'ai peine à dire d'hommes, d'individus qui ont décidé de rompre avec le genre humain, qui ont décidé de rompre avec les valeurs humaines, qui n'ont aucune considération pour la valeur vie et qui ne sont habités, obsédés que par la mort. Et la mort l'a donnée, se l'a donnée et l'a donnée également aux autres. Avec ce genre d'individus, il n'y a rien d'autre à faire que de les combattre avec acharnement pour les éliminer, les éradiquer. C'est la seule solution. Nous sommes solidaires, totalement solidaires du peuple belge et de tous les peuples européens qui furent solidaires de notre peuple également quand il fut agressé.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Actualité américaine, le président Barack Obama est maintenant en Argentine, deuxième étape de sa tournée en Amérique latine. Il était hier à Cuba, où il a rencontré des opposants cubains à l'ambassade des États-Unis à La Havane. Le chef de l'exécutif américain a salué leur courage, John Lyndon.
Tous les individus autour de cette table ont fait preuve d'un courage extraordinaire, a-t-il déclaré au début de cette rencontre, intervenue au dernier jour de sa visite historique sur l'île. C'est un sujet autour duquel nous continuons d'avoir de nombreuses divergences avec le gouvernement cubain, a-t-il ajouté. Une douzaine de dissidents étaient présents, parmi lesquels Elizardo Sanchez, de la Commission cubaine des droits de l'homme et réconciliation nationale. Il y a des personnes ici qui ont été détenues, certaines par le passé, d'autres très récemment, a commenté Barack Obama. Lundi, le président cubain Raúl Castro a vivement réagi aux questions de journalistes sur les prisonniers politiques, mettant au défi l'un d'entre eux de lui fournir une liste pour qu'il puisse les libérer.
Les premières américaines aux États-Unis maintenant, le milliardaire Donald Trump et l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton restent mercredi en tête de la course des primaires dans leurs partis respectifs malgré les succès de leurs rivaux dans plusieurs États de l'Ouest américain mardi. Le milliardaire Donald Trump a nettement remporté la primaire républicaine de l'Arizona, mais le sénateur du Texas Ted Cruz l'a écrasé dans l'Utah. Chez les démocrates, Bernie Sanders a, comme prévu, largement battu Hillary Clinton dans l'Utah et l'Idaho, mais l'ex-secrétaire d'État s'est imposé dans l'État plus riche en délégués de l'Arizona avec 60% des voix. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.